Le journal Ilan Malka.
Bonsoir à tous. Barcelone a rendu hommage aujourd'hui aux victimes de ces attentats djihadistes qui ont fait 16 morts sur les Ramblas il y a un an exactement. Était notamment présent à cette cérémonie le roi Felipe VI, le chef du gouvernement Pedro Sanchez et Quim Torra, président de l'exécutif de Catalogne. Nous entendrons le reportage de Pierre Chaperon. Comment éviter à l'avenir des catastrophes comme celle de Gênes en Italie? Le ministre de l'Intérieur français Gérard Collomb estime qu'il va falloir investir des moyens supplémentaires dans l'entretien des ponts. La députée européenne Karima Delli estime de son côté qu'il faut réduire le nombre de poids lourds en circulation sur les grands axes européens. Elle s'en est confiée au micro d'Ezequiel Fernandez. Et puis il y a de nombreuses réactions politiques à l'arrivée du nouveau patron d'Air France KLM, Benjamin Smith. Son salaire de 4,25 millions d'euros annuels fait notamment grincer des dents, nous dira Elia Bergel. Barcelone se souvient donc aujourd'hui de ces attentats qui se sont déroulés il y a exactement un an sur son sol, sur les Ramblas. Ces attaques revendiquées par le groupe État islamique avaient causé la mort de 16 personnes et fait également une centaine de blessés. Une cérémonie du souvenir s'est tenue dans la matinée sur la Plaza de Catalunya en présence du roi Felipe VI, du chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez et également de Quim Torra, président de l'exécutif régional de Catalogne. Sur place, le reportage de Pierre Chaperon.
Benvinguts à Barcelone.
Bienvenue à Barcelone. Nous vous souhaitons la bienvenue à tous dans notre ville.
Barcelone,
ville de paix.
Des textes de paix lus en espagnol, en catalan, en allemand, en anglais ou encore en français, représentant les pays touchés par les attaques.
Aucun homme n'est une île, un tout complet en soi. Tout homme est un fragment du continent, une partie de l'ensemble. Si la mer emporte une motte de terre, l'Europe en est amoindrie.
Puis de la musique, Somewhere on the Rainbow, Imagine, Alléluia, entre autres, auront ponctué cette cérémonie qui n'aura duré qu'entre 25 et 30 minutes. Précédée par la pose d'une gerbe de fleurs sur la mosaïque de Miró par la maire de Barcelone et le président de la Generalitat, la cérémonie a été d'une grande sobriété. La Plaza de Catalunya était loin d'être remplie, mais tout le public est parti dans le silence, celui du recueillement.
En Italie, des funérailles solennelles sont prévues demain en fin de matinée pour les 38 victimes de la catastrophe de Gênes. Elles auront lieu dans un hall du centre d'exposition de la ville en présence de toutes les plus hautes autorités de l'État, dont le président Sergio Mattarella. Cette présence de personnalités politiques rebute de nombreuses familles. Elles sont 17 sur 38 à annoncer qu'elles ne viendront pas. Selon elles, les institutions italiennes ont largement leur part de responsabilité dans ce drame. 7 autres familles annoncent qu'elles n'ont pas encore pris leur décision. Le ministre de l'Intérieur français Gérard Collomb veut tirer les conséquences de cette catastrophe italienne. Il annonce aujourd'hui que des moyens supplémentaires vont être dégagés pour l'entretien des ponts en France, sans donner davantage de précisions en termes de chiffres. Rappelons qu'un rapport publié en juillet sur l'état des autoroutes françaises estime qu'un tiers des 12 000 ponts du réseau nécessitent des réparations. 7% des ponts pourraient à terme présenter un risque d'effondrement. Parmi les nombreuses autres questions qui sont posées par cette catastrophe, il y a celle du trop grand nombre de poids lourds en circulation sur les grands axes européens. Le viaduc n'était effectivement pas conçu à l'origine pour supporter cette charge de milliers de camions par jour. Trouver des alternatives au transport marchandises sur la route, c'est l'une des priorités de la commission transport du Parlement européen. La députée européenne Karima Delli, Europe Écologie Les Verts, en est la présidente. Elle compte sur la directive euro redevance routière votée récemment pour financer ces alternatives.
Énormément d'investissements de l'Union européenne sont orientés pour des infrastructures, notamment routières, alors qu'aujourd'hui, on aurait aimé que ces investissements se fassent de manière beaucoup plus importante sur les alternatives. Et lorsqu'on parle du routier aujourd'hui, le Parlement européen s'est engagé, la Commission européenne s'est engagée, notamment à ce qu'on appelle faire du report modal. Le report modal, c'est d'avoir moins de camions sur les routes et d'avoir plus de camions, notamment sur le fluvial et sur le ferroviaire. Mais pour ça, il faut un peu de courage politique. C'est la raison pour laquelle le Parlement européen comme la Commission européenne s'est engagé à mettre en place ce qu'on appelle une euro-redevance. C'est quoi une euro-redevance? Eh bien, c'est le principe pollueur-payeur qui s'appliquera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons avoir une taxe poids lourd à l'échelle européenne. Dans un premier temps, cette redevance, nous allons la négocier avec notamment l'ensemble des chefs d'État, puisque le Parlement européen est co-législateur, et ensuite elle s'appliquera dans les années à venir. Mais le principe est enclenché, Maintenant, il faut que les États membres le valident au plus vite.
Dans l'hypothèse la plus optimiste, à quelle échéance ?
L'échéance sera à partir normalement de 2021, sachant que l'ensemble des États devra la mettre en place avant 2026.
Karima Deli au micro d'Ezekiel Fernandez. Voilà qui ne va pas exactement arranger les relations entre Ankara et Washington. La justice turque rejette aujourd'hui une nouvelle demande de remise en liberté d'Andrew Brunson. Le tribunal de la province d'Izmir, qui examinait la requête, a estimé qu'il y avait un risque de fuite de l'accusé. Ce pasteur américain est, rappelons-le, accusé de terrorisme. Il a passé plus de 20 mois en détention avant d'être assigné à résidence en juillet dernier. Il nie les faits retenus contre lui. Les États-Unis demandent sa libération. C'est notamment cette crise diplomatique qui a entraîné les tensions économiques qui font rage aujourd'hui entre les deux pays. Le bilan s'aggrave d'heure en heure en Inde, dans l'état du Kerala, situé au sud du pays. Les inondations ont fait 324 morts, selon les dernières informations données par le gouvernement local. Le ministre en chef du Kerala affirme qu'il fait face aux pires inondations connues depuis un siècle. Un précédent bilan, un peu plus tôt dans la journée, faisait état de 164 morts. Les militaires utilisent des hélicoptères et des centaines de bateaux pour venir en aide aux sinistrés. Des milliers de personnes sont toujours bloquées. Le Pakistan a officiellement un nouveau Premier ministre depuis aujourd'hui. L'ex-champion de cricket Imran Khan a été officiellement élu aujourd'hui. Il a prononcé un discours devant l'Assemblée. « Je promets d'apporter le changement dont cette nation a tant besoin. Pour commencer, nous allons rendre les gens strictement responsables de leurs actes. Je m'engage devant Dieu à ce que quiconque a pillé ce pays en soit tenu responsable », a-t-il déclaré. Il a également balayé les nombreuses accusations d'interférence de l'armée en sa faveur pendant la campagne électorale. Il devrait prêter serment dès samedi. En Hongrie, on apprend que la fondation de George Soros, Open Society, fait ses cartons. Elle va quitter Budapest définitivement pour Berlin à la fin du mois. C'est la conséquence de la violente campagne lancée par Viktor Orban, le premier ministre ultra-conservateur hongrois, à l'encontre de George Soros, ce milliardaire américain d'origine hongroise. Ceci sur fond de rejet de l'immigration. Les précisions de Valérie Krova.
Des affiches 4x3 invitant les Hongrois à ne pas lui laisser le dernier mot, des messages radio-télévisés dans la même veine et une série de lois baptisées Stop Soros, adoptées en juin, qui rend passible d'une peine d'un an de prison toute personne qui viendrait en aide aux migrants. Viktor Orban a eu raison des dernières résistances de George Soros, philanthrope d'origine hongroise et survivant de la Shoah. Sa fondation Open Society déménagera donc à Berlin, mais elle continuera à soutenir le travail des associations de la société civile hongroise sur les questions des droits de l'homme, largement bafouées par le Premier ministre Orban. En 34 années de présence en Hongrie, la Fondation Soros a également développé des programmes de distribution de lait dans les écoles, offert des équipements médicaux de pointe à des hôpitaux, encouragé l'éducation des Roms et œuvré à l'émancipation de la cause LGBT. Autant de chantiers qu'elle entend poursuivre à distance. Une autre menace pèse aujourd'hui sur la prestigieuse Université d'Europe centrale, fondée en 91 par George Soros à Budapest. Réputée dans le monde entier, elle forme chaque année 1500 étudiants venus d'une centaine de pays et délivre des doubles diplômes hongrois et américains. Viktor Orban a fait voter l'an dernier une loi sur les universités étrangères qui pourrait la contraindre à fermer ses portes et à s'établir ailleurs. Des rumeurs évoquent Vienne en Autriche.
Et le porte-parole de donc l'association de George Soros déclare « Il y a encore quelques collègues au bureau, mais nous allons tout fermer pour de bon le 31 août ». En France, c'est une affaire qui connaît déjà de nombreux rebondissements. Depuis mardi soir, celle de ce jeune homme de 26 ans abattu par un policier dans Paris. L'agent affirme avoir agi en état de légitime défense. Il poursuivait un chauffard et dit avoir tiré pour sauver la vie d'un conducteur de scooter. Il a néanmoins été mis en examen hier pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner dans l'exercice de ses fonctions. Il a également été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa fonction de gardien de la paix et interdiction également de détenir ou de porter une arme. Clotilde Ravel, bonsoir.
Bonsoir.
Les enquêteurs cherchent donc à savoir s'il a véritablement agi en situation de légitime défense.
Oui, l'avocat du policier, Maître Liénard, affirme que son client a agi dans le cadre de la légitime défense pour autrui, qui autorise un policier à ouvrir le feu pour éviter à une autre personne d'être renversée. On rappelle qu'après une course-poursuite dans Paris à l'arrière du scooter d'un particulier, le policier est descendu de ce scooter au niveau d'un embouteillage qui avait bloqué le véhicule qu'il chassait. À ce moment-là, selon la version du policier, l'automobiliste fait marche arrière et c'est là que lui tire le coup de feu. Le fonctionnaire a cru, explique son avocat, que le conducteur du scooter allait se faire percuter. En réalité, celui-ci était déjà à l'abri quand la voiture a fait marche arrière, mais il affirme qu'il ne l'avait pas vu. Le gardien de la paix qui affirme également n'avoir pas entendu sur sa radio les ordres de sa salle de commandement, des ordres qui lui demandaient d'abandonner la poursuite. La famille de la victime, de son côté, a dénoncé une injustice. Le père de l'automobiliste a déposé plainte pour homicide. Pourquoi ne pas aller l'interpeller à son domicile quelques heures après ? Pourquoi avoir pris tant de risques pour une issue aussi tragique, a déclaré l'avocat de la famille, Maître Lambert, qui dénonce une disproportion absolument phénoménale. Il estime également que cette affaire ne sera pas la parole de l'un contre la parole de l'autre, et ce notamment grâce à la vidéoprotection et aux témoins présents sur place.
Merci à vous Clotilde Ravel pour ces précisions. À peine désigné et déjà critiqué, le nouveau directeur général d'Air France KLM, Benjamin Smith, fait face à une vague de mécontentement. Ce n'est pas une surprise, c'était attendu. Parmi les éléments qui font grincer des dents, il y a bien sûr son salaire, qui représente une somme coquette, 4,25 millions d'euros annuels. Elia Bergel, bonsoir.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Alors il y a déjà de nombreuses réactions politiques et ce que l'on peut dire c'est que cette annonce suscite une véritable levée de boucliers à droite comme à gauche.
Oui, les superlatifs n'ont pas manqué pour qualifier le salaire annoncé de Benjamin Smith, le nouveau patron d'Air France KLM. Alors l'arrivée d'un Canadien à la tête de la compagnie française avait déjà crispé les syndicats et certains responsables politiques. Mais sa rémunération, qui devrait être près de 3 fois supérieure à celle de son prédécesseur Jean-Marc Janaillac, a déclenché de vives protestations. Salaire mirobolant, décision honteuse pour le porte-parole du Parti communiste français Olivier Dartigol. Le député UDI Bertrand Plancher a trouvé les sommes annoncées choquantes et de son côté, le porte-parole du Rassemblement national Sébastien Chenu a dénoncé le salaire exorbitant d'un dirigeant étranger. En face, l'État qui est actionnaire à 14,3% de la compagnie aérienne se justifie en mettant en avant les bons résultats de Benjamin Smith chez Air Canada. Pour autant, difficile de ne pas y voir une franche maladresse. Air France sort tout juste d'une forte période de turbulence. Le groupe a du mal à atteindre un équilibre financier. Par ailleurs, en avril et mai dernier, les personnels d'Air France s'étaient mis en grève pour réclamer de meilleurs salaires. Le mouvement de protestation avait débouché sur le départ de l'ancien PDG Jean-Marc Janaillac. Et les syndicats ont déjà prévenu, ils reprendront leur mobilisation à la rentrée, faute d'accord salarial suffisant.
Elie Abergel. Finalement non, ce ne sera pas un Belge qui conduira la liste du Parti Socialiste Français aux élections européennes l'an prochain. Nous vous en parlions la semaine dernière. Paul Magnette, maire de Charleroi, avait été effectivement approché par l'EPS et par son premier secrétaire Olivier Faure pour être tête de liste lors de ce scrutin qui se déroule en mai 2019. Aujourd'hui donc, il décline l'offre, il se justifie en mettant en avant des raisons personnelles. Il va notamment être candidat à sa réélection comme maire de Charleroi en octobre. Alors est-ce que ce n'est pas également l'état du PS qui l'a effrayé ? Au micro de Lucas Scaltriti, il assure que non.
Si j'avais été disponible, j'aurais vraiment volontiers été aider mes amis français. Je pense que c'est un grand parti. Je crois que parfois en France, on oublie ce que le PS français représente, non seulement en France, mais sur la scène internationale. C'est le parti de Jaurès, de Léon Blum, de François Mitterrand. C'est un parti qui a toujours été un phare de la gauche européenne, qui vit aujourd'hui des heures difficiles, mais dont je suis convaincu qu'il redeviendra un élément très important de la vie politique française et européenne et qui a plein de talents à l'intérieur. Donc je n'avais aucune inquiétude sur le fait qu'il était possible de faire vraiment avec le PS français une très belle campagne et si j'avais été disponible, je l'aurais fait volontiers.
Donc le PS français a quand même ses chances malgré tout aux prochaines élections européennes selon vous ?
Je suis vraiment convaincu que s'ils parviennent à se mettre en ordre derrière une liste qui soit forte, ils ont tout à fait un espace politique à occuper. On ne peut pas laisser les amis d'Emmanuel Macron dire ou bien vous êtes européen et vous êtes avec moi ou bien vous êtes des populistes. Il y a un espace pour une gauche européenne qui défend le projet européen, mais qui n'accepte pas les politiques de l'Union européenne telles qu'elles sont menées aujourd'hui. Et je suis convaincu que le PS français peut l'incarner.
Paul Magnette, maire de Charleroi, au micro de Lucas Scaltriti. Le temps de demain sera pluvieux dans le sud-est du pays. Des orages attendus de la Savoie jusqu'aux Alpes-Maritimes. Des précipitations à prévoir également sur la Corse. Partout ailleurs, le ciel devrait être nuageux, mais quand même ensoleillé, surtout dans l'après-midi. Côté température, le petit matin s'annonce un petit peu frais sur la moitié nord-ouest, avec 8 à 11 degrés dans les terres. Ailleurs, les températures minimales seront comprises entre 12 et 16 degrés. Entre 18 et 21 en bord de Méditerranée. Cette édition a été préparée avec François-Charles Domergue. Elle a été réalisée à la technique par Florent Mugeon. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 22h avec Ézéchiel Fernandez.